La journée finit bien sur Radio Lac.
Avec Benjamin Smadja.
Avec Benjamin Smadja.
Ce week-end, je vous emmène voir le Loup. Rendez-vous à la galerie Ruine qui se trouve en plein cœur des Eaux Vives. Au Volande, il y a une exposition qui d'ailleurs a lieu en ce moment même jusqu'à 20h demain et dimanche. Également autour du Loup, donc, une expo de Claire Galloni-Distria. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir ici sur Radio Lac. C'est pour ça que ça résonne un petit peu. On est dans une galerie, on est entouré de vos œuvres, de vos photos. 20 photos plus un bonus, on va peut-être en parler, précisément autour du Loup. Alors avant de parler du travail, pourquoi parler du Loup ? J'ai l'impression qu'il est très à la mode d'une certaine manière.
Le loup, c'est un animal qui nous passionne, un animal dont on ne cesse de parler. On a même l'impression qu'on en parle de plus en plus. Une des pistes, ce serait que derrière ce loup, il y a aussi toute une symbolique de l'animal sauvage. L'animal sauvage ici en Europe, qu'est-ce que ce serait ? Et nos relations, en fait, par rapport à ce sauvage.
Ça veut dire que c'est un peu ce classique, mais l'homme est un loup pour l'homme, c'est un peu le sous-texte.
L'homme est un loup pour l'homme tant qu'il ne le connaît pas. Ça, c'est pour finir, en fait, le dicton. L'idée, c'est vrai que nos relations avec cet animal, elles datent pas d'hier. Ça fait des siècles et des siècles, en fait, qu'on interagit avec. Ce qui est plutôt surprenant, c'est que, alors que d'autres, par exemple, comme l'ours, ont eu des variations d'intensité ou même de symbolique, le loup, lui, en fait, semble toujours nous accompagner et continuer à nous accompagner. Et ça, c'est plutôt remarquable, en tout cas intéressant pour un anthropologue.
Et c'est vrai que la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut réguler le loup ? Est-ce qu'il faut vivre avec ? Est-ce qu'il faut le laisser prendre la place qu'il pourrait prendre ? Vous ne répondez pas à ça, mais vous posez toutes les questions. Et ça commence par des paysages où on ne voit pas du tout de loup. On y voit des très belles montagnes. Alors, je crois reconnaître les montagnes valaisannes. De toute façon, tout a été fait dans le coin, entre Genève, le Grand Genève, la Haute-Savoie, le Valais. Pourquoi avoir choisi des montagnes et des montagnes où on ne voit ni humains, ni loups, ni quoi que ce soit d'autre que des montagnes?
L'idée, c'est quand on débarque, on arrive comme ça dans cette expo, dans cette galerie, de présenter en fait des tableaux d'imaginaire pas très surprenants de où vivent les loups tels qu'on se l'imagine. Donc il y a deux glaciers, le glacier d'Argentière, le glacier de Trian et puis la vallée du Lot-Chantal. Et c'est en noir et blanc, c'est de l'argentique, donc il y a aussi cette notion d'un peu d'intemporalité derrière. Et l'idée, voilà, c'est qu'on se dit un loup, ça vivrait plutôt dans ce genre d'endroit. Et en réalité, ces photos, elles sont pas si simples à cadrer parce qu'il y a beaucoup d'installations, de téléphériques, de gens, d'hélicoptères, beaucoup, en fait, d'anthropomorphisation de ce paysage. Donc, c'est le premier contraste de dire que les territoires de loups et des hommes, ils sont partagés.
Oui, j'allais dire, c'est une certaine idée de la nature quand il y a des parkings, des téléphériques et des grands magasins.
Exactement. Et puis, on peut aussi un petit peu se poser la question, cette nature qui est cette montagne tellement fréquentée jusqu'à tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est la nature ? Qu'est-ce que c'est la nature sauvage ? Est-ce qu'il reste même de la nature sauvage dans les Alpes ? C'est trois petits points de suspension.
Vous avez fait cette exposition photo, mais vous ne l'avez pas fait toute seule, c'est une histoire de famille.
Oui, c'est vrai. J'ai demandé à mon fils, que je trimballe depuis qu'il est né sur mon terrain, comme on dit, de participer pour un peu lui dire merci, en fait, pour le remercier de m'avoir accompagné alors que je n'ai jamais demandé son avis. Et en fait, il a commencé à faire des photos dont certaines sont dans le livre. Et puis, comme ces photos, en fait, étaient un autre angle, un autre regard, mais très complémentaire et très intéressante aussi, il co-expose avec moi, dont cette photo que vous découvrirez, je l'espère, du chien.
Du chien au milieu d'autres animaux. Voilà, c'est vrai, j'en dis pas plus. Vous l'avez dit, photo qui est dans le livre, parce que, alors, vous n'êtes pas seulement photographe, vous êtes aussi accessoirement anthropologue. C'est un gros accessoire.
C'est vrai.
Comment se réunissent ces deux passions ?
Alors, ça, c'est la longue histoire du mariage heureux entre le visuel et l'anthropologie, la vidéo, mais ça, j'en fais pas, mais la photo aussi et l'anthropologie. Avec cette idée que l'image ne représente pas qu'une image, il y a, Il y a toute une construction derrière et aussi que, en les partageant, en les faisant circuler, il y a des interactions. En fait, ça influe les personnes qui regardent les photos, évidemment, mais vice-versa. Il y a un retour, donc c'est extrêmement intéressant de travailler en fait avec, pour une anthropologue, et aussi au-delà de construire en fait tout un récit, une narration grâce aux images. Et c'est un peu l'idée que sans les images, en fait, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de pistes de réflexion ne pourraient pas en fait avoir lieu. Donc c'est plus qu'un outil de collecte, comme on dit, ou pour documenter. C'est plus qu'un outil pour illustrer une histoire. C'est vraiment en fait un partenaire dans une méthode de recherche qui est absolument fantastique.
Ce qui est génial, c'est que vous n'avez besoin de personne finalement, parce que la photographie nourrit l'anthropologie, qui nourrit la photographie, etc. etc.
C'est un mariage heureux.
Avec vous-même, ce qui est déjà pas mal, hein, tout le monde n'y arrive pas, et ça c'est bravo. Les photos qu'on trouve ici donc à la galerie Ruine, avec des photos également, quelques-unes de lieux humains, c'est assez difficile à décrire, et puis surtout j'ai pas trop envie de le faire, parce que je veux que les gens viennent ce soir, demain et dimanche, 14h, 20h. Quel est le lien entre des endroits potentiellement d'une ferme, c'est ce que je me dis, et le loup?
L'idée, en fait, c'est de montrer que l'imaginaire dans la montagne, ok, mais que le loup, en fait, est aussi à l'intérieur. Il est aussi autour de ces animaux d'élevage, mais pas que, autour des habitations et même parfois un peu trop proche ou carrément à l'intérieur, en fait, comme des personnes ont pu en témoigner. Donc, en fait, ces territoires partagés, que ce soit l'homme ou que ce soit le loup, au final, est-ce qu'il ne serait pas des fois un peu trop partagé? En tout cas, on se rend bien compte que les rencontres qu'il y a entre l'animal sauvage et puis nos habitats, le domestique au fond, c'est mieux quand ça reste plutôt rare et de courte durée.
Sauvage comme le loup, 20 photos, un masque également, on va en parler pendant quelques instants, et un vrai travail de photographe, en plus de l'anthropologue que vous êtes. Je pense par exemple à une image floutée qui se défloute petit à petit. Qu'est-ce qu'on y découvre?
En fait, l'idée, c'est de mettre en scène quelles sont nos interactions avec le sauvage, et j'ai trouvé intéressant en fait de parler aussi de l'espace sauvage qu'est la forêt. On pense beaucoup aux animaux et tout, mais finalement, dans cette forêt où traditionnellement c'est un lieu festif, en fait, en tout cas c'est un lieu dans lequel on a le droit d'aller temporairement et d'oublier un peu les règles de la vie quotidienne. Et là, c'est un festival de musique, le Palp, qui est excellent et que je vous recommande.
On salue le Valais, parce qu'il se passe là-bas, effectivement.
Exactement. Et cette image floutée, le travail sur le flou, en fait, il est là pour interroger finalement... cette partie plus grise de où débute, c'est une histoire de frontière en fait, où débute le sauvage, où débute le domestique, mais aussi nous-mêmes en fait par rapport aux animaux dans cette forêt, quelle est la différence entre un animal et un humain. On voit bien que plus on cherche à se poser cette question et moins nos critères qui nous semblaient comme allant de soi semblent pertinents. Et aussi, c'est une manière de restituer ce que les gens me relataient, c'est-à-dire, la différence entre moi et un animal, c'est pas si évident. On a beaucoup de types de relations qui sont très riches et très nuancées. Et du coup, j'ai voulu, avec le flou, aussi interroger cet espace commun qu'il y a entre une extrême qui serait l'humain et l'autre extrême, l'animal. Et on se rend compte qu'en fait, cet espace commun grisâtre, flou, il est peut-être à réinterroger, en tout cas à ne pas prendre comme allant de soi.
C'est une enquête en fait que vous avez faite, puisque vous l'avez dit, j'ai interrogé des gens, j'ai voulu montrer telle ou telle chose, mais à chaque fois en communiquant avec les gens, c'est un travail qui n'est pas si solitaire que ça.
Ah non, en fait, pas du tout solitaire. Au début, c'est vrai que moi aussi, je pensais que je serais un peu seule, au milieu d'un champ, et je suis restée seule, je crois, sur plusieurs années, moins de 5 minutes, en fait. Parce que ça parle de relations, en fait, ça parle d'interrelations, et au final, ça parle beaucoup de l'humain et de ce qu'on partage. C'est l'essence même, en fait, de cette enquête.
Ça se termine votre exposition par un masque devant la lune, masque qui vient du théâtre Amstramgram, on peut les saluer. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a ce rapport éternel entre l'humain et le loup. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant ce loup ?
Pourquoi est-ce que le loup-garou fascine autant finalement ? Parce que le loup, on voit bien qu'en fait, c'est un animal qui porte, presque, j'ai envie de dire, malgré lui, énormément de symboliques, énormément de choses. On a évoqué un petit peu la figure du chien qui est un loup, en fait, c'est la même espèce, donc qui se remélange, qui se rehybride aussi parfois. Il y a aussi cette hybridation entre l'homme et le loup qui donne au loup-garou, qui est quand même extrêmement surprenant de retrouver de nos jours cette figure aussi bruyante, en fait, aussi active, et en commençant un petit peu à réfléchir là-dessus, la figure du loup-garou, en fait, elle nous a jamais quittés. Elle vient d'un mythe ancien qui nous suit, qui est présent dans les films, qui est présent dans la littérature, qui est en fait un être fantastique mal aimé, mal compris. Ça aussi évoque le thème de la métamorphose, et on sait, quand on est anthropologue dans les Alpes, que la métamorphose, c'est quelque chose d'assez courant, en fait. Donc toutes ces transgressions taxonomiques, elles sont passionnantes, et je pense aussi que c'est pour ça qu'elles ne quittent pas nos imaginaires, elles sont toujours aussi vivaces.
Dernière question d'un mot, moi je suis épaté de voir le nombre d'histoires qu'il y a dans nos montagnes, et vous interrogez précisément entre les Alpes suisses, les Alpes françaises, d'aller jusqu'en Valais, il y a un nombre d'histoires dingues.
Oui, la richesse en fait du folklore alpin est absolument incroyable, et c'est un peu ma volonté de poursuivre dans cette voie pour continuer en fait à collecter ces histoires qui sont plutôt transmises oralement, et de vraiment les transcrire et de les réinterroger. Par ailleurs, je me permets de signaler qu'il y a plusieurs expositions qui vont avoir lieu, dont une en 2026 au musée de Bagne, qui sera aussi sur le loup et qui sera à propos de récits, et que cette même exposition va être aussi en avril à la galerie Art Now Project, et cet été à la Biennale.
L'occasion de se reparler et d'aller en savoir plus sur le loup sauvage comme le loup, c'est le nom de cette exposition à la Galerie Ruine. Vous êtes à la rue des Volantes, vous êtes en plein cœur des eaux vives, vous passez soit ce soir jusqu'à 20h, soit demain dimanche 14h, 20h, découvrir le travail de Claire Galloni-Distria. Merci beaucoup pour la visite privée.
Merci à vous.
Avec Benjamin Smadja sur Radio Lac.
La journée finit bien.
La journée finit bien.